Eh bien, salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la voix du magazine qui commence aujourd'hui une émission qui va parler de... À 20 ans, on a le droit et même le devoir d'y croire, d'être déterminé, de prendre des risques et aussi bien sûr d'être un peu naïf. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Si Nina avait choisi ce parcours chaotique, c'est peut-être qu'en raison d'un passé lourd à digérer, elle devait toucher le fond pour se sentir exister. Mais pas que. Avec nous dans les studios, Agnès Despouille, qui est ici et maintenant pour échanger autour de son livre « I Wanna Be Loved by You ». Bonjour Agnès, merci d'être là.
Bonjour, Germain.
Alors, première question, sérieuse, comment tu vas aujourd'hui ?
Ben, ça va. J'ai réchappé un peu à tout et bon, ça va.
Bon, c'est vrai qu'à travers ton livre, on a un peu l'impression que tu es une survivante.
Oui, on peut dire ça un peu, oui.
Donc la couverture de ton bouquin, c'est une photo de toi, un portrait en mode vintage, photomaton, il y a un cadre serré, on te voit, tu nous regardes, et puis on cherche aussi un petit peu à lire, à décrypter, à analyser ton regard. Et toi, je voulais savoir, quand tu regardes cette photo, ce que tu voyais, qu'est-ce que tu lis dans ce regard de toi des années 80?
Alors bon, déjà c'est la seule photo que j'avais de cette époque, hein.
Ouais.
Que, en plus c'est Riptier qui l'avait, me l'a gentiment envoyé. Et j'avais fait cette photo maton, en fait c'était pour aller voir, pour avoir le pass, pour aller voir mon copain qui était en prison. Donc c'est vrai que j'avais pas l'air très fun quoi sur la photo. Hein.
Tu veux dire, comme c'était pour la prison, tu défiais aussi du regard voilà. Un petit peu, tu te disais tiens, c'est vrai. Parce que toi tu connais la suite de l'histoire,
ouais,
tu lui souhaitais bon courage.
Oui, ben ouais, voilà, que c'est qu'il faut de temps en temps prendre un peu de recul quoi, mais bon, à cet âge-là c'est pas évident quoi, de prendre du recul, hein. Souvent avec les sentiments c'est pas toujours facile.
Donc c'est vrai que cette photo, c'est le symbole un peu d'une époque disparue avec le temps qui passe. Et comme ton livre se veut un peu le témoignage d'une époque, donc on va en venir un petit peu voilà, à cette époque qui a marqué toute une génération. C'est aussi, je trouve, un regard sur une jeunesse, la jeunesse de cette époque. Donc chronologiquement... en lisant ton bouquin, et puis c'est vrai qu'on en a aussi un peu.
Ah, je sais, parce que j'aurais de moi m'identifier à mes héros, musiciens héros de l'époque, comme Johnny Thunder, Steve Bator, qui étaient des junkies, hein, ouais. Et c'est vrai que ça. Parfois, je me dis. Bon, il faut faire cette expérience, hein, c'est sûr, hein, mais. Ça, peut-être à une époque, ça a été un peu trop mis en avant, un peu trop. Positiver. Alors que bon, il y a eu quand même beaucoup de. Après, bon, c'est vrai, il y a eu le sida qui a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts.
Et là, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est quelque chose que j'ai noté parce que aussi tu l'as écrit à un moment.
Je suis une fan, pas une groupie.
Que t'es une fan. Oui, mais voilà, tu fais la distinction.
Ouais. Alors bon, pour moi, une groupie veut juste baiser les groupes ou les musiciens pour vivre un peu par procuration leur célébrité, leur notoriété, pour jouir de certains avantages. Alors qu'une fan, c'est plus par rapport à l'amour du rock, quoi, de la musique. Et de cette aventure, quoi, qui était à l'époque extraordinaire, quand même.
Mais alors là, à Nina, tu lui dirais de ne pas être si fan que ça, puisque justement, tu disais que les... C'est là où je veux en revenir.
Et ouais, on ne peut pas faire les choses à moitié, ouais. Des fois.
De se détacher un petit peu.
À cette époque, c'était tout ou rien, ouais. Alors c'est difficile. J'aurais perdu en authenticité.
Ouais, l'authenticité, la sincérité, c'est quelque chose qui caractérise. T'en oui. parles souvent, ce côté aller au bout des choses, en tout cas. Quoi. Sans regret.
Surtout, on se rend pas compte, mais à l'époque, avoir une dégaine, alors quand on regarde après la dégaine qu'ils avaient, on n'a pas l'impression que c'était si ouf que ça, mais ça faisait peur aux gens. Hein. Juste une ceinture cloutée et des cheveux ébouriffés, décolorés, c'était... Les gens, surtout en province, bon, même, ils vous regardaient et on faisait peur, sincèrement, quoi. C'était vraiment... voilà, c'était... Et puis... Alors que maintenant, bon, je veux dire, il y a des études où à l'école, on peut aller avec n'importe quelle coupe de cheveux, les cheveux de n'importe couleur, mais c'était pas du tout ça. Il fallait la porter, sa crête, hein, au tout début. Hein, c'était vraiment pas évident, quoi.
Ouais, faut imaginer la France, fin 70, oui. Début 80.
Un mec avec les cheveux décolorés, il se faisait traiter de pédale, ouais. Il se faisait casser la gueule régulièrement. Enfin, voilà, il fallait assumer vraiment son look, quoi.
Hein. La vie, c'était pas comme maintenant. Ouais, la vie, elle était en noir et blanc, quoi.
Un peu, oui.
Dans la tête et puis dans la rue aussi, quoi. Donc, dès que t'amenais de la couleur, c'était tout à fait ressenti comme de la provocation. D'ailleurs, ton regard sur cette photo, il dit ça aussi, je trouve. Il a un côté de défier la personne qui va le regarder, quoi. Alors que t'es pas maître de ce que tu projettes, et est-ce que toi tu voulais faire peur? Est-ce que ça faisait...
Non, même pas. C'est que je ressentais ça sur le moment, parce que voilà, j'avais la haine, j'avais les boules, parce que mon copain était en prison. Il est pas resté longtemps, mais bon, c'était déjà un mois et demi, c'était déjà beaucoup pour moi.
Ouais, voilà, tu parles de colère, de haine, de rage, c'est...
Oui, j'avais beaucoup de rage.
C'est... une émotion qui n'a pas quitté la jeunesse, en fait, qui l'exprime peut-être différemment actuellement, mais c'est très présent dans la société, quand même, toujours.
Aujourd'hui ?
Ouais, aujourd'hui.
Ouais, je pense que c'est plus de la frustration aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas trouver de bonheur dans cette société de consommation, et puis bon, c'est de pire en pire. Et j'espère qu'ils vont s'énerver, oui, qu'ils vont avoir la rage et qu'ils vont tout casser.
Toi, t'as pas quitté, en tout cas, quoi.
Non, mais bon, physiquement, je suis pas autant la pêche de quand j'avais 20 ans. Hein. J'ai beaucoup d'asthme. Du coup, les manifs, tout ça, je peux pas trop, quoi. Mais sinon, oui, j'ai toujours autant déterminé, oui, à ce que les choses changent, quoi.
Et comme je disais, on a quelques années en fait de différence, mais à peine, et que chronologiquement, on aurait pu se croiser en fait. L'univers citadin que tu décris, mais très familier. Je suis de la génération moi post-Beru, c'est celle qui m'a réveillé. Mais c'est le mouvement plus hardcore, do it yourself comme tu le nommes, moi qui m'a conscientisé, politisé, radicalisé. C'est un livre qui se veut aussi le témoignage de la jeunesse, d'une époque marquée, inspirée par des courants de contre-culture qui a été symbolisé par le punk. Et on a tous notre définition et nos références évidemment du punk. Pour toi, c'est les années 80. Et je te cite, nous étions des punks, nous vivions de récup, de vol, de mendicité, de drogue, nous étions les rebuts de cette société malade et nous étions fiers de le montrer.
C'est vrai, j'étais... Oui, j'exhibais comme j'ai dit, hein, mais je m'en foutais qu'on voyait mes traces de chute sur mes bras ou même faire des chutes dans la rue. Bon, maintenant, ce serait impensable, c'est vrai, avec toute la réduction des risques qu'il y a eu par la suite. Mais bon, je pense qu'il y a eu besoin d'en montrer beaucoup pour que, justement, les gens prennent conscience. Hein, parce que sinon, il n'y aurait pas eu ce qui a suivi après avec ACT UP et tout ça, quoi. Si on n'avait pas défié un petit peu, si on n'avait pas osé se montrer, si on avait continué à se cacher, ben voilà, ça aurait arrangé tout le monde, en fait, quoi.
Ouais, il y a une avant-garde qui fait toujours bouger les lignes.
Ouais.
Tout de suite, en tout cas, tu parles de ce monde de débrouillardise, en fait.
Ouais.
de galère, de violence. C'est tout à fait lié à la scène punk des années 80, quoi.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Tu revendiques même d'avoir été donc une vraie rebelle, une vraie punk, et que c'était évidemment pas une mode, mais un mode de vie.
Un mode de vie, oui. Puis on s'opposait aussi à la culture qu'il y a eu avant, hippie, quoi. C'est aussi par rapport au Peace and Love, à Hate and War, quoi, à la violence. Mais bon, voilà, je pense que... Et peut-être comme après le hardcore et le do-it-yourself, justement, c'est un petit peu opposé, justement, par rapport au punk des premières générations, parce qu'il y a eu beaucoup trop de drogue. Je pense que ça s'est à jouer aussi, quoi.
Absolument. C'est vrai qu'il y a eu, en plus, aux États-Unis, l'émergence du courant... du courant straight edge.
Non, parce que les punks étaient aussi créatifs, mais plus dans quelque chose de plus positif, quoi, on va dire, de plus construit.
Ouais, c'est ça, de moins nihiliste et autodestructeur.
C'est ça,
quoi.
Ouais. Non, on était dans l'autodestruction, c'est vrai, quand même. Je voulais mourir à 25... Je pensais pas que j'allais vivre au-delà de 25 ans.
C'est fou, c'est ce que tu dis, quoi. Mais c'est très punk, le vivre... Enfin, de ce moment-là, quoi. Vivre vite, nos futurs. Mais parce que... Enfin, je veux dire, la société de ce moment-là proposait, au-delà de peu d'attrait, peu d'avenir, quoi. En tout cas, c'était pas un avenir que tu souhaitais, quoi.
Puis peut-être, comme beaucoup de jeunes hein, aussi, on pensait qu'on, peut-être aussi qu'on était éternel, hein, qu'on, parce qu'on n'avait pas peur de mourir. Je me dis que peut-être, quelque part, c'était la jeunesse éternelle, quoi. On peut dire ça comme ça, quoi.
Et ouais, quand t'es jeune, tu penses que t'es éternel, clairement. Ouais. Alors il y a plein de chansons qui symbolisent un peu ce moment-là. J'en ai choisi une qui ne fait pas partie de la playlist de ton bouquin. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ton livre est séparé en chapitres. Bon, ça c'est plutôt classique pour un livre. Et que chaque chapitre porte le nom soit d'un titre, soit d'un livre en tout cas, qui correspond à un petit peu ta culture, tes références... T'as cité Johnny Thunder, c'est le titre du livre, je crois.
C'est le son, oui, I Won't Be Loved. Born to Lose. Born to Lose, oui.
Alors, bon, là, j'ai pris les rebelles, c'est les Bérus, c'est quand même plutôt incontournable comme
oui,
groupe.
Aujourd'hui, c'est incontournable.
Dans la culture punk. Et voilà, et plus, voire plus large, ils sont passés dans la culture populaire, j'ai l'impression, les Bérus maintenant. Et donc, il y a ce titre Les Rebelles, qui est une reprise des Vibrators, qui est Troops of Tomorrow. Ouais, qui a été repris aussi par The Exploited.
Pas cette fois-ci, ouais.
Toi, t'as eu le sentiment à ce moment-là d'être une vraie rebelle, quoi. Mm-hmm. Et une vraie punk, parce que ça voulait... c'était un peu la même chose.
Ouais. Oui, à 20 ans, oui, mais bon, j'ai commencé à 14 ans. Et au début, à 14 ans, c'est vrai que j'avais du mal à me sentir authentique, parce que bon, bah, je pouvais pas sortir quand je voulais, parce que mes parents et tout, tout. Et du coup, à 18, j'ai un peu explosé, hein, par rapport à comment m'habiller. J'en ai rajouté bien une couche. Quoi.
Et c'est aussi tout ce moment, je trouve, de conscientisation et puis de phénomène d'identité. Un mouvement se crée, quoi. Un mouvement est en marche et il y a une vague qui va tout casser sur son passage. On parle du mouvement Squad, Sauvage et Fier de l'être. Agnès, je vous laisse savoir pour toi ce que c'était la provocation. Parce que c'est un peu ce que tu as commencé à dire sur le look, par exemple, qui créait une réaction de peur quoi, chez les autres.
Oui, c'est... surtout bon, ceux qui ont vu naître les premiers punks, quoi. Et c'est vrai qu'on était beaucoup provocateurs, hein. Et on s'amusait donc de voir la peur sur les gens. Mais bon, le but, c'est aussi quand même de faire réfléchir par rapport à ça, comme je l'ai dit, par rapport à la toxicomanie, quoi, au fait de provoquer les gens. Ça a fait qu'il y a eu une visibilité ça a changé les choses, quoi. Je ne sais pas si ça marche tout le temps. Mais bon, c'est vrai qu'on aimait bien c'est provoquer les gens dans la rue. Ouais, entre 80 et 81, entre 13 ans et 14 ans, hein, que j'ai commencé à devenir un peu. Mais moi, j'étais la plus jeune. Hein. Mes copains, ils avaient déjà 18 ans. Comme je te le dis, à Toulouse... les gens, ils étaient... Et puis bon, on s'amusait, on pouvait rentrer... Je sais, j'avais un pote, il rentrait dans les pâtisseries, il prenait un gâteau, il se servait, il repartait. Ou alors, quelqu'un, une bourgeoise qui en avait dans la main, il lui prenait. On osait tout, quoi. Mmh. Franchement, on osait tout. C'était pas encore le Toulouse authentifié avec caméra qu'on connaît maintenant. On pouvait s'amuser quand même. La rue était un terrain de jeu, quoi, pour nous.
La rue est à nous. Ouais. Mais c'est super joyeux, d'ailleurs, tout ce que tu es en train de décrire. Mmh. Et surtout, il y avait cette idée
on rigolait,
de...
oui. Oui.
Et de ne pas se cacher, quoi.
Non.
Et puis, des phénomènes de bande, côté groupe. Et c'est ça qui aussi commençait à faire peur. Et
c'est vrai, puis... c'est vrai, peut-être. Ouais. Surtout quand on montait sur les voitures... pour traverser la rue ou rayer avec des ceintures cloutées ou quoi, les capots des belles Mercedes garées. C'est vrai qu'il y en a qui apprécient peut-être pas. Mais c'était un peu... Ouais, on n'était pas tout seul, c'est vrai qu'on était en bande, mais bon, aussi on se faisait casser la gueule par les Rockabilly, qui étaient place de la Trinité à Toulouse. Et comme ils étaient plus nombreux que nous, il fallait courir vite, quoi.
En tout cas, c'était ce moyen-là d'expression. C'était aussi un contexte global d'émergence, nouvelle politique plus insurrectionnelle. À un moment, t'en parles. T'évoques la RAF, Action Directe, les Brigades Rouges, qui ont été quand même des courants qui ont inspiré le mouvement punk.
Inspiré, oui. Après, il y a Toulouse et le Scalp.
Ouais, ah oui, c'est vrai que
ici, oui.
Section et, carrément aussi Le Pen.
Ouais, et c'est à l'époque où en plus il y avait pas mal de skinhead facho qui était à Toulouse. Enfin, et le lab là, c'était un mix de rockers, de rockabilly et de skinhead qui s'étaient associés. Ils avaient monté le lab, Ligue Anti-Bouffon. Et ça tapait sur des rebeux ou sur des punks. Mmh. Voilà, et le Scalp est né à Toulouse. C'est la première fois que je les ai vus, c'était pour les manifs, je sais plus. C'était un peu plus tard, Marc, non, c'était en 86, les lois de Vaquet, non, je crois. Ouais. Je sais plus. Ouais,
c'est vrai que c'est un peu les balbutiements de l'appropriation politique du mouvement punk en construction.
En opposition à l'Open. Hein,
voilà, c'est ça, c'est ça. Les premières bases, les premières pierres.
86-87, ça, non?
Ouais, je dirais à peu près. Que le politique plus institutionnel a vu se créer des monstres comme Le Pen en fait, et que le mouvement punk s'est spontanément mis en opposition, et le mouvement punk a été clairement antiraciste, antifasciste, et je trouve même que c'est construit voire exclusivement sur cette doctrine avant d'englober des thématiques plus anarchistes et internationalistes, et liées aussi à la précarité, quelque chose quand même, la jeunesse pauvre qui squatte.
On va dire classe moyenne, parce que quand même dans les années 80, le pouvoir, moi je me rappelle, ma mère vivait beaucoup mieux avec même le SMIC, ou même un peu plus que maintenant qu'on vivrait avec. Hein. Ça n'avait rien à voir, les loyers étaient, se représentaient un cinquième de sa paye, quoi. Aujourd'hui, le loyer c'est au moins la moitié, si c'est pas plus de ta paye. Donc par rapport à ça, je pense quand même que les gens étaient moins pauvres quand même, même s'ils ne faisaient pas partie de la bourgeoisie. Les gens vivaient mieux quand même que dans l'ensemble, on peut dire.
Mais alors, ça devrait être maintenant, en fait, l'explosion.
Bizarrement. C'est pas... bizarrement, les révolutions, les révoltes ne seront pas toujours quand le peuple est le plus asservi ou le plus pauvre. Mais 68, c'est un peu pareil. Hein. C'était pas non plus... La pire des périodes, hein, économiquement, quoi.
En fait, c'est le rejet de l'excès de surconsommation. C'est-à-dire, c'est l'après-Trente Glorieuse. Il y a une espèce de confort matériel qui s'est installé. Et ça dégueule. Et toi, tu veux dégueuler autre chose et te dire, tout cet amoncellement de trucs inutiles, en fait. La vie, ça peut être autre chose, en fait.
Oui, c'est ça. Oui, on voulait pas de cette société de consommation, ça, c'est clair et net, quoi. Il y avait quand même des groupes qui revendiquaient une contestation plus constructive, politique, comme les Clash. Hein. Moi, j'adorais les Clash.
boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river.
Mais c'est vrai que vers jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, après, quand, c'est vrai, quand j'ai commencé à. Bizarrement, quand j'ai commencé à prendre de la cam, j'ai écouté beaucoup plus de musique où les groupes. Mais c'était pas fait exprès, hein, ça s'est retrouvé. C'est après que j'ai appris qu'ils étaient. Bon, il n'y a qu'à les regarder, tu me diras, ça se voit, leur gueule, quand on voit la bonne mine de Steve Vai ou Johnny Sanders, on comprend vite. Et j'ai un peu. Oui, c'est vrai qu'en vieillissant, j'écoutais des groupes pré-punk plutôt, qu'on appelle la tendance un peu glam rock, okay. Là aussi. Alors que, bon, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment les premiers groupes anglais, Steve Littlefinger, qui sont irlandais. Et Outcast aussi. Bon. Et aussi dans les Clash, les Pistols, évidemment, Lucas Epps aussi. Etc.
Et eux, ils avaient une culture politique, tu penses
Oui. Enfin, bon, il y a bien le morceau des Pistols, il y a un Antichrist, il y a un anarchiste. Ils sont toujours revendiqués quand même anarchistes, les punks. Et les Clash, c'était quand même d'extrême gauche, on ne peut pas leur enlever
ça. C'est vrai. De toute façon, on ne peut pas trop critiquer les Clash, j'ai l'impression. J'aime bien les Clash. Attends, je pourrais dire deux, trois trucs, mais
vas-y,
bon,
j'ai.
Sur ton bouquin, c'est une analyse assez personnelle, évidemment, mais ce que j'ai ressenti, et ça apparaît d'ailleurs dès la huitième ligne, et aussi à travers le titre de ton livre, c'est que rapidement, l'amour sera central, alors l'amour avec un grand A, mais comme le moteur de tout, et je voulais savoir si tu pensais que l'amour, c'était un peu la seule quête valable de la vie.
Apparemment. Apparemment. Il ne reste plus que ça. Mais je pense que pour pouvoir aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même Et c'est pas si évident pour pouvoir apporter à l'autre, pour pouvoir lui apporter tout court, quoi. C'est, parce que j'ai l'impression que les problèmes de l'un s'ajoutent aux problèmes de l'autre. Il n'y a pas de complémentarité, ça fait plus et plus, quoi. Et donc, il faut, je pense, arriver à être suffisamment bien soi-même. Et là, on peut avoir une relation à deux, mais sinon, c'est très dur.
ouais.
Voilà, surtout je parle... la passion, ouais. Surtout la passion, parce que je ne sais pas aimer un peu.
c'est ce qu'on comprend.
Et justement, ça ne dure pas longtemps.
l'intensité de la passion.
Voilà.
Mais d'ailleurs, j'ai trouvé que tu questionnais la passion, la pulsion, mais moins le sentiment amoureux. C'est-à-dire, je parlais de la fameuse huitième ligne où tu parles du prince charmant et qu'une figure finalement très construite de l'amour. Enfin,
oui, on a du mal à s'en débarrasser, franchement. On a du mal, le savoir qu'il n'existe pas, on espère toujours. Mais bon, c'est vrai que... Oui, à croire que bon, l'amour passionnel, c'est du fantasme. Hein. Maintenant, je pense ça, hein, que ça n'existe pas, parce que comment peut-on tomber amoureux sans vraiment connaître la personne? C'est bien parce qu'on projette tous ces fantasmes qui vont correspondre à tous nos fantasmes, à notre idéal. Et quand on se rend compte qu'il n'est pas celui-là, et bien bam, on tombe de haut. Et là, de grosses déceptions et l'amour cesse, quoi. Mais donc, a priori, l'amour passionnel n'existerait pas. Il resterait quoi, la tendresse?
Une chanson aussi, je crois.
Voilà, je ne sais pas. Moi, j'ai pas trouvé encore.
Non, mais ce qu'on ressent, c'est effectivement l'autre, le rapport à l'autre est important. On est des animaux sociaux. On peut pas vivre les uns, une, sans les autres. J'ai l'impression, en tout cas, c'est aussi un petit peu ce que tu essaies de dire dans ton livre.
Faut être tolérant aussi. Il faut beaucoup être pas mal tolérant, je pense, avec l'autre. Mais le problème, après, bon, c'est le désir, quoi. Le désir finit pour ma part, hein, par partir, quoi. Si je suis plus dans une relation passionnée, ben, je ne désire plus mon camarade. Alors, ça pose problème. On ne peut pas rester avec quelqu'un si on ne le désire plus non plus, quoi. Je veux dire.
Et le désir, tu penses que c'est quelque chose qui peut s'entretenir ou c'est quelque chose d'irrationnel? Donc, de toute façon, tu es à l'écoute du désir, mais c'est le désir qui commande quelque part.
Ben oui, et je pense qu'il dépend beaucoup de notre inconscient. Donc, on a du mal à... On ne peut pas savoir pourquoi telle personne va nous plaire ou nous excite plus qu'une autre. C'est des choses qui sont totalement inconscientes, quoi. Et bon, soit on l'accepte et on arrive à avoir du plaisir. C'est parce qu'il est acceptable, hein, parce qu'évidemment, certains ont des désirs tout à fait... Mais bon, dans la plupart des gens, c'est quand même tout à fait dans la norme, on va dire. Mais bon, pourquoi, voilà, certains aiment préfèrent les blondes, les grandes, les petits, les bruns. Ça, je pense que ça, c'est inconscient et on peut, à mon avis, c'est difficile de le gérer, quoi.
Oui, parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a pas mal d'annotations dans ton bouquin.
Oui, parce que j'ai fait psycho.
Ouais, voilà, t'as fait psycho, donc tu fais part de réflexions personnelles, voilà. de pensées. Il y a toute une partie aussi en italique où tu parles à Nina, qui est le personnage principal. On comprend rapidement que c'est toi.
C'est d'expliquer ses comportements. Mais... Ouais. Alors, il y a une personne qui me l'a reproché, qui m'a dit ça, normalement, c'est au lecteur de faire sa propre idée. Oui, pourquoi pas, mais bon, moi, j'écris aussi ce livre un petit peu par rapport à ma mère, quoi, on va dire, hein, parce que je me suis sentie toujours dénigrée par rapport à ma mère. Elle s'est fait sa propre histoire sur moi, sans savoir vraiment ce qui était vrai, pas vrai. Et puis, elle a beaucoup raconté à mes enfants mon passé, alors même qu'ils n'étaient pas en âge de le concevoir. J'ai écrit un peu ce livre pour rétablir, en essayant d'être le plus vrai possible par rapport à mon histoire, le plus sincère possible, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas à mon avantage non plus, hein. J'ai fait, voilà, des choses qui fait que je suis allée en prison, que j'ai beaucoup de culpabilité, hein. J'en suis pas fière non plus. Et donc voilà, je voulais qu'il y ait un témoignage de ce que s'est réellement passé.
Mais alors justement, cette distance que tu mets volontairement en t'adressant à toi-même, en fait, moi je l'ai vu comme une seconde mise à nu. C'est tout à fait ce que tu viens de dire. En tant que lecteur, je me fais un avis en fait sur ce que je lis et sur les situations, sur ton comportement, j'ai un avis. Et cet avis, il va se percuter en fait à ta propre analyse en fait de ton propre comportement. Et moi je l'ai vu comme quelque chose d'encore plus honnête en fait, c'est-à-dire d'aller encore plus loin, d'être sincère.
Oui, je pense que c'était ça, c'était mon but, oui, c'était le but de la manœuvre. Et puis en créant deux personnages, j'arrivais un peu mieux à parler de moi, parce que voilà, je m'imaginais quand même un personnage, quoi. C'était un peu plus facile. Il y a des choses que j'aurais pas pu mettre sur le papier si j'avais dû tout écrire à la première personne.
Ouais, tu dis que Nina, ça m'a aidé. Tu dis que Nina, c'est à la fois ton double ou ta moitié.
Ouais.
Ça te permet, oui, d'avoir un jugement sans concession.
C'est ça. Ça m'a aidé à avoir ce recul pour pouvoir parler de moi, quoi.
On revient un petit peu sur la toile de fond et sur le thème qu'on est en train d'aborder, qui est l'amour. On se passe un petit morceau de Lucrate Milk.
Allez, I love you, fuck off.
Exact. Tube incontournable, évidemment, de Lucrate Milk. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est ce que tu dis d'ailleurs à un moment, c'est qu'il y a un côté justement un peu naïf et de quelque part devoir l'assumer, le reconnaître en fait, qu'on a 20 ans, et ben voilà, on expérimente, on découvre aussi les relations, les autres.
C'est sûr, mais bon, après, comme je dis, à 20 ans. On peut mourir d'amour, hein. C'est vrai que on croit tellement qu'on peut pas vivre sans l'être aimé, s'il nous quitte, que je comprends qu'il y ait des jeunes qui puissent se suicider parce que, voilà, lors d'une séparation, quoi. C'est vrai que c'est quand même parfois très pas facile à vivre. Mais peut-être que c'est parce que on a eu aussi une enfance qui fait, parce que tout se rejoue évidemment quand on est amoureux, le même amour un petit peu que nos parents, quoi. On reste dans le même schéma, quoi. Et si on a eu justement des parents qui ont une relation très fusionnelle, comme j'ai dit, c'est d'autant plus difficile, d'avoir des relations amoureuses d'une autre sorte que dans la fusion, quoi. Je pense pas que ça soit forcément la solution, même si au début c'est très 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 agréable de se sentir que deux fois un. Eh ben non, c'est pas comme ça. Et un fait deux.
Et un plus un égale trois, même parfois.
C'est vrai.
Il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est que parfois je trouvais que t'excusais certains comportements, attitudes violentes des mecs de manière verbale. envers toi ou des mecs envers tes copines?
Non, je ne sais pas, je disais que j'aimais pas. Là, par rapport à l'appellation du mot salope, là.
Entre autres, ou des comportements un peu agressifs, violents, où j'ai l'impression, t'es choqué, évidemment, mais il y a une espèce de fatalité, quoi.
Ah, parce que moi aussi, je suis violente, et c'est souvent moi qui commence, alors j'accepte la violence de l'autre. Non, chaque fois que, à part Gilles, là, qui était complètement bourré, une fois qu'il m'a tapé qu'il était complètement sous, et qui s'en rappelle pas, là, je pense pas que j'avais commencé. Il était pas du tout violent à mon égard. Mais, je pense pas, je me vois pas en tant que victime, en tout cas, quoi. C'est plutôt ça, voilà.
Mais le fait de ne pas l'ouvrir à un truc plus, je dirais, systémique, tu vois, de la violence, qui est aussi un fait de société, un fait à déconstruire. Le fait de dire que tu n'es pas une victime et que tu ne te ressens pas comme une victime et que tu es quelqu'un de forte.
Même pour mon viol, à la limite. Hein, pour moi, c'est moi qui avais fait une faute. Quelque part, je n'aurais pas dû y aller. Et du coup, je me suis reprochée, quoi. C'est pas normal ce que la personne a fait, quoi. Je sais pas comment dire. J'ai pas eu l'impression que si ça m'a quand même ça a dû me toucher, hein. Ça a dû m'atteindre, puisqu'après j'ai eu toute une autre attitude. Je suis passée, je fais un pas de plus par rapport à la prostitution, et c'est après ça quand même que j'ai fait le pas, on va dire, sauté, je sais pas comment dire. Et du coup, mais bon.
Oui, parce que là, ce qu'on est en train d'égrener quand même dans ta vie, c'est pas très joyeux pour l'instant. Non. C'est quand même plutôt sombre, violent, et tu dois à chaque fois te battre. La vie est un combat. Ta vie, en tout cas, dans ces années-là, est un échange de coups. En tout cas, t'es en mode survie, quoi.
Oui, et là, je trouve que la prison m'a beaucoup plus marqué que mon viol, ça c'est dit. Bon, parce que ça a duré longtemps, il faut dire. Ça a duré un an, mais je trouve que j'étais sortie avec la haine, la rage. C'était encore plus qu'avant. Hein. Avec les années, en faisant des enfants, ça s'est passé. Mais c'est vrai que, heureusement qu'ils m'ont laissé sortir au bout de 12 mois, j'en aurais fait 24, je ne sais pas dans quel état je serais sortie, quoi.
De toute façon, il faut mettre en place des mécanismes de survie et d'autodéfense.
Ouais, et là, heureusement que j'ai des tendances à être moi-même violente, hein, pour pouvoir me défendre, hein, sinon on se fait manger, quoi. Mais bon, c'est sûr que c'est pas en prison qu'on côtoie le must. Il vaut mieux, c'est vrai, savoir se défendre.
Your auntie said, take your day out, the road smells nice.
avant d'aller en prison, la ville est très présente dans ton bouquin. Il y a Paris, Toulouse, Marseille, Londres. Tu vois la ville comme un immense terrain de jeu. T'es tombée amoureuse de Paris à un moment, tu le dis, page 112. Et c'est un banlieusard. J'ai vécu à Paris aussi. Et là aussi, peut-être qu'on a pu se croiser.
Certains concerts, je pense.
Ouais, carrément. En tout cas, ce Paris avec ses ruelles où t'aimes te perdre, le métro, le faubourg Poissonnière. Enfin voilà, c'est vraiment.
J'habitais la Gare du Nord.
Ouais.
Tout ça, c'est, oui, j'adorais tous ces quartiers. Ouais.
T'en parles beaucoup. On est avec toi d'ailleurs dans ces moments. On s'imagine très bien. Même si la ville change, la ville évidemment se gentrifie, les plus pauvres sont virés, la sociologie des habitants-habitantes se modifie au fur et à mesure. Voilà, on parlait du prix des loyers, ça modifie aussi la cartographie du...
Tu m'étonnes.
Et puis j'imaginais ton appart, que tu prêtes à un moment ton appart...
Je le laisse à Gilles, là, ouais. Pour que je vais vivre chez mon copain. Et c'est vrai que, avec le temps, je l'avais pourtant aménagé avec pas mal de mobilier des années 60, que j'aimais bien le style des années 60. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bon, il y avait des taches de vomi sur la moquette.
Sympa, mais non, voilà, c'est original comme déco, mais Ikea, il propose pas ça.
Non, ça, c'était à la fin.
Mais oui, donc on voyage, je trouve, avec toi. Et puis il y a ce côté, en tout cas, ce que moi j'ai perçu avec la ville, les rues, et c'est un peu le mouvement. Après, il y a la période plus prison avec les murs et c'est plus l'immobilisme. Et puis, on verra ça dans la dernière partie du bouquin et de ta vie avec les îles, le Pacifique. Donc déjà, on met un peu plus de couleurs, la mer, Tahiti, la forêt. Et je trouve que ça fait un peu trois moments clés dans ta vie. Ouais, ça monte. Ça, ouais, c'est ça, comment ça s'appelle, un électrocardiogramme, en fait. Avec aussi ton parcours de femme, puisque sur la fin, quand tu es à Tahiti, tu apprends que tu es enceinte.
Oui, une belle histoire, oui, voilà. Avec l'île de Wainé, qui est l'île de la fécondation, justement. Et je tombe enceinte là-bas, quoi. Et, alors que je n'étais jamais tombée enceinte auparavant et que je n'avais jamais trop pris la pilule. Et tout s'est débloqué. Et puis aussi, c'est quand je suis arrivée à Tahiti que j'ai pris conscience de la nature. Parce qu'il ne fallait pas me parler de la campagne jusqu'à cet âge. Donc moi, c'était la ville, la ville, la ville. Et voilà, j'ai l'impression de découvrir des choses que je n'avais jamais prêté attention. Et oui, ça m'a fait du bien fou, quoi, de me retrouver là-bas. Quoi.
Ouais, le mouvement punk 80 est quand même très noir. Il y a une noirceur quand même liée à ce courant. Et effectivement, personne ne parlait d'écologie. C'était quand même très lourd.
On n'avait pas conscience. Non, mais c'est vrai. Et puis on n'avait pas conscience que c'était si grave. Voilà, à cette époque-là, il n'y a personne qui avait tiré pas trop de monde, à part sur le nucléaire, évidemment. C'est mais vrai. Après, on ne savait pas. Hein. Ah, c'est vrai qu'on n'en avait rien à foutre, on jetait tout dans les caniveaux, on faisait gaffe à rien. On n'avait rien à foutre de manger bio, je ne sais même pas s'il y avait beaucoup de bio à l'époque en plus. Et puis on sniffait de la colle, c'est pas vraiment bio non plus.
Il y a un peu de la colle bio, non? Cléopatra n'avait pas sorti une colle.
Ah, c'est l'amande amère pour les maternelles, là, non? Elle avait un goût d'amande.
Les amandes bio, ouais, carrément, quoi. Non, mais c'est génération nos futurs, de toute façon,
ben oui,
quoi,
de toute façon,
évidemment.
Ouais.
Alors pourtant, il y a un groupe qui voulait mettre un peu de couleur dans les rues de Paris, c'est Oberkampf. Oberkampf.
Non, mais c'est nos futurs. Dans les Sex Pistols, ils disent nos futurs, ouais. For you, pour toi, pas pour la planète, quoi. C'est dans cette société, on n'a pas d'avenir, en fait. C'est pas forcément qu'il fallait en finir avec notre vie, quoi. C'était peut-être mal interprété.
C'est vrai. Et les Bérus, sur la fin d'ailleurs, avaient dit qu'ils étaient pour le Yes Futur. C'est une jolie formule aussi, quoi.
En vieillissant, évidemment.
Ouais, donc là, même si tu veux pas, après, tu peux ne pas vouloir, mais le yes est envisageable, quoi. Ouais, au moins un jour de plus, quoi. Et puis, on y reviendra, mais effectivement, tu es mère, donc je pense qu'on voit les choses quand même différemment.
Ben oui.
Et le yes, il se conjugue à plusieurs, donc... Donc c'est une nouvelle équation quoi sur la vie quoi.
Ben, je pense que soit je faisais des enfants, je choisissais de continuer à vivre la vie quoi. C'est un peu ça. Je tombe enceinte entre 26 et 27 ans. Soit si j'avais continué, ben c'est sûr que là, je pense que j'aurais fini par mourir quoi. Voilà. J'ai échappé au sida déjà, c'est un miracle. Ouais. J'ai guéri de l'hépatite C sans interférence, sans rien prendre, toute seule. Et donc, voilà.
Ouais, c'est ce que tu dis. Bon, on va reparler aussi
de
la drogue. Mais tout, c'est, quand même, toi-même, t'es surprise à un moment donné.
Ouais.
T'attends un résultat. Il y a ce truc, effectivement, d'autodestruction. Ça importe pas, quoi. En tout cas, la prise de risque, c'est OK, je veux dire...
Ah oui.
Tant en sexe qu'en drogue, j'ai l'impression.
Ah oui, j'ai jamais trop pris de précautions, quoi. Mmh. Que ce soit préservatif, des seringues, on essayait, mais bon, au bout d'un moment, quand on se connaît bien, on finit, quand il n'y en a plus, on finit par les partager.
Ouais.
Voilà, je sais que j'ai dû certainement, j'ai shooté des réseaux positifs. Hein. Mmh. Bon, je ne le savais quand même pas au moment, mais je l'ai su après.
Oui, parce que c'est la génération sida, mais c'est pas encore. Tout le monde n'en parle pas. Les échanges de seringues, il n'y a pas de maraude.
Oui, c'est très. Il y avait encore des pharmaciens qui refusaient d'en vendre.
Tu cherches partout.
Alors que la loi est passée, il y en a qui ne voulaient pas vous en vendre.
Mais c'est vraiment le regard de l'autre, c'est ce que tu dis, il y avait un espèce de jugement quand même.
Ah oui, quand on a la pharmacie, il demande de vous regarder dans la salle derrière. C'est pour ça, après, autant ne pas avoir honte, et voilà, parce que sinon, c'est pas possible, quoi.
On va prendre la ligne
Oberkampf. Oui, j'avais un plan de cam là-bas.
En tout cas, on s'écoute Couleurs sur Paris.
Des mecs, des grands et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père. Ah, si ces messieurs avaient des cheveux verts. Si ces messieurs avaient des cheveux verts. Couleurs sur Paris, na na na. Il est temps de changer, na 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 na. Couleurs sur Paris, na na na. Il est temps de changer. Qui est triste à tuer. Prends des bombes de peinture et bombe tout. Écris ce que tu penses sur les murs. Écris ce que tu penses.